Nous allons donc ouvrir le Saint-Livre avec beaucoup de respect. C'est avec respect que vous ouvrez le Saint-Livre. Comment ouvrez-vous le livre? Comment l'ouvrez-vous ce livre? J'espère, je ne sais pas si j'aurai le temps, peut-être, de parler du respect de la maison de Dieu. Je ne sais pas, parce que justement au camp de Berlat qu'on a fait le week-end dernier avec tous ses frères et sœurs, j'ai été poussé à prêcher sur le respect de la maison du Seigneur. Par rapport à un texte, mais je vais en parler, oui. Par rapport à un texte qui m'a beaucoup parlé dans l'Ecclésiaste, vous savez, le thème du séminaire, c'était sur l'écoute. Combien Dieu nous demande d'écouter? C'est des milliers de fois, 1420 fois, je crois, dans la Bible, où Dieu nous demande d'écouter. Et lorsque je préparais ce texte sur « Approche-toi pour écouter », vous savez que vous connaissez ce dans l'Ecclésiaste, « Approche-toi pour écouter ». Il est juste dit avant, quand tu entres dans la maison de Dieu, prends garde à ton pied. Alors, quand on est habitué à méditer, on sent très bien qu'il y a deux pensées qui se complètent. L'importance d'écouter, ce que vous êtes en train de faire, je l'espère. Et en même temps, la façon dont tu as du respect dans la maison du Seigneur. Prends garde à ton pied. Le pied, c'est là où on marche. Et j'ai réfléchi et j'ai prié, et je suis persuadé que nous avons commis l'erreur, nous les évangéliques, d'une manière générale, je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais d'une manière générale, les évangéliques, nous avons désacralisé le lieu de culte en opposition à l'Église catholique, qui elle a sacralisé d'une manière superstitieuse les lieux. Vous me suivez, j'espère que c'est clair. Mais ce n'est pas parce que certaines choses dans certaines églises ont été faites d'une manière superstitieuse que nous, de notre côté, nous devons manquer de respect envers le lieu de culte. Et si Dieu dit « prends garde à ton pied », vous comprenez bien que ça n'a rien à voir avec le petit obstacle qu'il pourrait y avoir sur la marche en rentrant. Ça, c'est une question de respecter la maison de Dieu. Mais je pense qu'on a tout à gagner à se préparer à la façon dont on rentre dans la maison du Seigneur avec respect. Bien sûr qu'il faut écouter, mais je crois que Dieu veut que ce lieu, la maison de Dieu, à partir du moment où des hommes et des femmes se retrouvent dans un lieu où il y a des chrétiens, ce lieu devient la maison de Dieu. Vous êtes d'accord? On veut un réveil, et justement on va parler du réveil ce matin. Dans Ésaïe au chapitre 26, Il y a une prière et il y a une réponse. Il y a une prière qui est faite parce que le peuple en a marre, ils en ont assez, ils se rendent compte que ça ne va pas. Enfin, c'est très facile à comparer avec aujourd'hui. Ésaïe 26, verset 15. Il faut une prière. Cette prière, j'espère qu'on l'a fait. J'espère que c'est la vôtre. Et vous allez surtout voir comment Dieu va répondre à cette prière. Vous y êtes? Ésaïe chapitre 26. Multiplie le peuple! Est-ce que c'est votre prière que les églises multiplient, que toutes les églises soient pleines, pas pleines de croyants impies, mais pleines de chrétiens repentis? Est-ce que c'est votre prière? Multiplie le peuple, oui, ça plaît à Dieu ça. Multiplie le peuple, manifeste ta gloire, recule toutes les limites du pays. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Je ne sais pas si j'en parlerai tout à l'heure, c'est pour ça que je vous le dis. C'est sûr que prier quand ça va mal, c'est presque normal. Vous voyez ce que je veux dire? Comme une femme enceinte, sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été, loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs. Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé. Ses habitants ne sont pas nés. Que tes morts vivent. Que mes cadavres se relèvent. Et c'est des prières, ça. Non? Il n'y en a pas des morts à Toulouse, des cadavres? Excusez-moi, mais le mot, c'est Dieu l'utilise. Il n'y en a pas des cadavres spirituels? Eh bien, il y a la réponse de Dieu. La réponse, Dieu répond. Réveillez-vous. Voilà la réponse. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Va, mon peuple, Entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Ça vous rappelle rien, ça? Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. J'en ai parlé dernièrement de la colère. La colère, elle vient. Je peux vous dire que la colère de Dieu, elle vient. Que personne ne s'imagine que quelque chose pourra, à moins un réveil mondial. Mais je peux vous dire que la colère de Dieu, elle vient. Et comme les gens ne veulent pas de Dieu, croyez-moi, tout ce qui est prophétisé s'accomplira. La réponse de Dieu, nous l'avons. Réveillez-vous. Voilà la réponse de Dieu. Peut-être que vous avez prié cette semaine, mais parle à ton peuple. Donne une réponse. Il y a tant de cadavres, il y a tant d'angoisses, il y a tant de mal, il y a tant de chagrin, il y a tant de rétrogrades. Mais quelle est la prière que nous faisons monter vers Dieu? Quelle est la prière? Est-ce que vous pourriez, en une phrase, ne le faites pas, mais peut-être dans votre cœur, si vous deviez répondre réellement au Seigneur, si la question c'était Dieu qui vous la pose, mais quelle est la prière que vous avez fait cette semaine? Quelles sont les prières que vous avez fait cette semaine? C'est quoi l'intensité de vos prières? Comme le don spirituel nous l'a rappelé ce matin, de prier avec intensité, avec supplication. C'est sur mes notes, croyez-moi. Dieu dit, je répandrai un esprit de grâce et de supplication. Tout à l'heure, on va avoir une heure de prière. J'ai pas le temps. Ah, j'ai pas le temps. Si vous n'avez pas le temps, vous devriez avoir l'honnêteté de dire que ça va pas. Vous devriez avoir l'honnêteté. Il vous faut en arriver à ce stade. Vous savez, cette semaine, il y a un gars qui m'a appelé, un chrétien. Il a fait une drôle. Il travaille dans un centre où il surveille des écrans, vous savez, des vidéos, des télés, là, je sais pas, de surveillance. Et il avait un problème depuis des années. Écoutez bien. Et sur son MP3, je ne sais pas quoi, là, il m'a dit, j'ai téléchargé 5 de vos prédications. Et je suis parti au boulot parce qu'il travaille, il me dit, je peux écouter tout en travaillant. Et dans les 5 prédications, dans la journée, 5 fois, vous avez dit la même chose dans les 5 prédications, 5 paroles, et j'avais prié par rapport à ce sujet. À la 5e prédication, je suis parti chez moi. Et je me suis tenu devant Dieu, et Dieu m'a délivré. Dieu lui avait parlé. Il avait prié de tout son cœur. C'est dire, parle-moi. Et c'est vrai qu'il y a des gens, des fois, oui, il a redit les mêmes choses. Mais j'espère que vous n'en êtes pas là. Parce que si Dieu vous dit pour la 10e fois la même chose, c'est que peut-être ça serait temps que vous écoutiez. Et non pas que vous pensiez que le pasteur est vieilli et qu'il est frappé de sénilité. Ça peut arriver. Mais pour le moment, j'ai l'impression que ça peut aller. Quelle est l'intensité de nos prières? Je ne parle pas de nos enfants. Tout à l'heure, on va prier pour nos enfants parce que c'est dans un cadre particulier. Je sais qu'il faut que l'on prie. Parce que je voudrais que les chrétiens, vous soyez tous convaincus que Dieu veut sauver tous vos enfants. Même si ce sont des enfants durs, même s'ils sont méchants, même s'ils se moquent de vous, il faut que vous sachiez que c'est la volonté de Dieu et que nous devons persévérer. Mais comment réagissons-nous à cette prédication, à cette introduction? Comment réagissez-vous à la réponse du Seigneur, parce que c'est la même réponse. Dieu n'a pas changé d'avis. Comment réagissons-nous à sa réponse? Réveillez-vous. Dieu voit dans quel état est l'Église de Toulouse, dans quel état est l'Église de cette nation. Dieu voit votre cœur, le mien, et il va agir en fonction de cette attente. Quand ils étaient dans la détresse, mais oui, ils s'y sont mis à prier. C'est le même problème aujourd'hui. C'est le même problème que du temps d'Ésaïe. Le cœur de l'homme a toujours été le même. Même si la technologie a évolué, le cœur de l'homme est toujours le même. Et tout ce que vous voyez autour de vous devrait nous pousser à prendre au sérieux cette réponse. Réveillez-vous. Mais ça fait 20 ans qu'on nous parle du réveil. Eh bien oui, parce que Dieu veut le réveil. Mais Dieu ne va pas nous l'imposer. Dieu ne va pas nous obliger. Dieu veut agir par rapport à ces morts. Vous vous rendez compte, les prières qui sont faites, que tes morts revivent, que les cadavres se relèvent. Si nous ne nous réveillons pas, nous ne verrons pas ces choses. Est-ce que Dieu a le pouvoir de ressusciter les morts? Vous avez compris l'image. Est-ce que Dieu a le pouvoir de ramener n'importe quel cœur endurci? Est-ce que Dieu a toujours le pouvoir de toucher un sol de Tarse? Est-ce que Dieu peut le faire? Est-ce que vous croyez que Dieu peut le faire? Oui. Nous, on se préoccupe souvent de l'état des pécheurs. Mais lui, il est trop dur. Lui, il est trop machin. Comment évangéliser? Mais ça ne devrait pas s'occuper parce qu'en plus, il est quand même dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher. Donc, à la limite, on ne devrait même pas s'occuper de ça. Nous, on devrait s'occuper de la qualité de l'Église. Ça, c'est notre devoir. Plutôt que de nous préoccuper de la qualité du pécheur, on devrait plutôt s'occuper de la qualité de sainteté dans l'Église. Donc Dieu veut agir, Dieu veut qu'il y ait un réveil. Vous croyez que Dieu veut un réveil? Un réveil déjà personnel? Oui. Parce que peut-être vous dites, oui, il faudrait que l'Église se réveille, il faudrait que les pasteurs se bougent, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, il faudrait peut-être qu'il y ait de l'évangélisation. Mais écoutez, je vous mets au défi de prendre l'annuaire des assemblées de Dieu, de téléphoner dans les églises où il y a des méga-évangélistes et de téléphoner pour voir quel est l'état des églises. Le problème, il n'est pas dans la qualité de l'évangéliste. Le problème, il est lié à la réponse que soi-même l'on fait. Qu'est-ce que je fais de la réponse ? Ils avaient prié. Le Saint-Esprit saisit Esaïe. Eh bien, et Dieu parle. Eh bien, réveillez-vous. Mais c'est personnel, c'est à chacun de vous. Vous ne devez pas dire, tu veux te réveiller. Derrière, tu veux te réveiller, toi. Qu'est-ce que vous répondez au Seigneur ce matin ? Qu'est-ce que vous répondez ? Est-ce que nous voulons vraiment le réveil ? Est-ce que nous avons besoin d'un réveil ? Est-ce que c'est une question qu'il faut débattre ? Est-ce que nous avons besoin de réveil ? Est-ce que la France a besoin d'un réveil ? Ça fait presque rire. Non ? On ne peut pas rire avec ça. Comment ça doit commencer ? Parce qu'il ne faut pas, c'est pas la peine de culpabiliser bêtement. Mais quand même, chacun d'entre nous, on est venu dans la maison du Seigneur ce matin. On est venu. Vous êtes venu comment ? Comment vous êtes venu ? Pourquoi vous êtes venu ? Comment ça doit commencer ? Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe ? Parce qu'il faut être constructif, Dieu n'est pas là pour nous abîmer. Même si ça doit nous reprendre, même si ça doit être sévère, je vous en supplie. Vous avez fait beaucoup de progrès à ce niveau. C'est rare maintenant quand on me reprend sur une prédication sévère. C'est bien. Parce que la Bible dit considère la bonté et la sévérité du Seigneur. Quelqu'un d'intelligent, il a compris ça. Mais ce matin, je suis là, je suis là avec vous, comme chrétien, je ne suis pas que le pasteur de l'Église, vous le savez. Mais cette parole, comment ça va commencer ? Dieu donne une parole, réveillez-vous. Alors c'est facile, moi je prêche, vous prêchez sur le réveil, vous comprenez bien que ça, mais c'est une des choses les plus faciles pour un pasteur de prêcher sur le réveil. Il y a tellement de sujets sur le réveil. Mais comment je suis venu ce matin dans la maison du Seigneur ? Est-ce que c'est sérieux ? Déjà, est-ce que c'est sérieux cette affaire ? Ou est-ce que vous êtes dans le jugement continuel, il faudrait ci, il faudrait là, il faut que les gens se réveillent. Eh bien, réveillez-vous. Est-ce que vous dites, mais c'est Dieu qui me parle ce matin ? Eh oui. Si c'est le Seigneur qui vous parle, réveille-toi. Bon, c'est écrit au pluriel, réveillez-vous. Mais ça commence par une réaction individuelle. Qu'est-ce que je vais faire de cette parole, à moins que franchement vous soyez là d'une manière religieuse, superstitieuse, en pensant que parce que vous êtes à l'église, Dieu est avec vous. Bon, si ça en est là, c'est sûr que là, il y a vraiment plus que besoin de réveil, il y a besoin d'une résurrection. Je fais quand même la différence entre un réveil, quelqu'un qui a besoin d'être réveillé, il y a des gens qui dorment, on les réveille, et puis quelqu'un qui est mort, c'est biblique, hein, spirituellement, et qui lui a besoin d'une résurrection. C'est-à-dire que quelle que soit la teneur de la prédication, ben mort, vous pouvez lui dire ce que vous voulez, il s'en fiche. Et il y a des gens, et ça vous devriez le savoir par rapport au progrès que vous avez ou que vous n'avez pas fait. Si vous n'avez pas fait des progrès depuis 1, 2, 3, 4, 5 ans, il est temps de vous mettre à genoux et de dire, Seigneur, réveille-moi vraiment, réveille-moi. Est-ce que nous sommes sûrs de faire ce que Dieu va nous demander ? Est-ce que vous dites des fois, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Est-ce que ça vous arrive de dire au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Moi, voyez, il m'a fallu un petit AVC pour comprendre certaines choses. Comme quoi, des fois, Dieu est obligé de... Vous rappelez l'histoire du mulet, là, que le gars, il voulait vendre. Vous ne vous rappelez pas l'histoire de cette mule ? Vous vous rappelez ? Je vous avais raconté une histoire vraie. Un monsieur qui vendait son âne sur le marché. Vous savez comment ça marche dans les marchés ? Il faut attendre, il y a une heure pour la vente. Mais le gars, avant de vendre son mulet, il vantait son mulet. Et il dit, achetez mon mulet, achetez-le. Il obéit à tout ce qu'on lui demande. Achetez le mien. C'est un mulet intelligent. Ah bon, il est intelligent ton mulet ? Oui, vous lui dites un truc, il le fait. Ah bon ? Eh bien, on va voir. Couche-toi. C'est une histoire vraie. Et je ne dis pas ça pour rire. Parce que je crois que l'AVC, c'est un peu ça. Couche-toi. Ben, tu vois bien que ton mulet, il n'écoute pas. Tu vois bien que ce n'est pas vrai ce que tu nous dis. Alors le propriétaire, il prend un bâton, il va dans le mulet, il lui met un grand coup sur la tête, tac, couche-toi. Et le mulet, il se couche. Alors il va voir le gars, il dit, mais il obéit, mais il faut d'abord attirer son attention. Sans commentaire. J'ai bien peur que parfois, le Seigneur, hélas, doive en arriver à attirer notre attention. Oui ou non? Alors, ce matin, ce que je veux vous dire, c'est d'une simplicité enfantine. Mais est-ce que premièrement, je vous tutoierai ce matin, si j'arrive, je veux le faire pour que chacun se sente concerné. Est-ce que tu éprouves ou est-ce que tu perçois que tu as besoin d'être réveillé ou est-ce que tu l'es? Ne répondez pas à haute voix, c'est clair. Mais si c'était Dieu qui vous posait la question, sérieusement, est-ce que tu as besoin vraiment de te réveiller? Est-ce que cette parole, tu la prends au sérieux? Mais je voudrais voir, moi, les cadavres, parce que c'est biblique. Ces cadavres spirituels se relevaient à Toulouse. La ville est remplie de cadavres. La ville est remplie de morts spirituels. Oui, Dieu a le pouvoir, vous le savez que Dieu a le pouvoir de relever les morts, n'importe lesquels. Est-ce qu'il n'y a pas trop de rétrogrades à Toulouse? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a trop de rétrogrades? Il y a trop de gens qui se convertissent ou il y a plus de gens qui rétrogradent? On aurait peur si on faisait un sondage. Combien dans l'Assemblée, dans la nôtre, parce que ne parlons pas des autres, combien de chrétiens ici cherchent Dieu? Je ne parle pas de chercher la bénédiction, de demander la bénédiction sur les enfants, sur le boulot, sur le patron, sur la maison. Seigneur, protège notre maison, protège ma bagnole. Seigneur, que personne ne la raye avec tous les fadas qu'il y a à Toulouse. Ma bagnole, ne riez pas, ne riez pas. Si vos prières, c'est que ça, je vous avoue que c'est bien triste. Je pense qu'on peut prier pour que Dieu protège nos biens. On peut le faire? Je pense qu'il faut le faire. Moi, je crois que Dieu protège nos biens. Mais si nos prières, c'est que ça, c'est quand même inquiétant. Bien sûr qu'on l'a lu. On l'a lu, je l'ai pris volontairement, le verset 16. Quand on était dans la détresse, on priait. Mais je veux prier avec ferveur. Pas que pour moi, je veux prier pour les autres. Est-ce que j'ai à cœur les autres? Est-ce que vous avez à cœur les autres? C'est une question, c'est une très bonne question. Est-ce que j'ai vraiment à cœur les autres? Ou est-ce que j'ai à cœur les autres par intérêt? Vous savez, quand j'étais pasteur à Grouillé, il y avait un gars qui était venu, qui m'avait fait beaucoup de mal. Mais vous savez, j'étais jeune encore, pasteur, vous savez, on prend tous les coups, hein. Et il y a un gars qui était venu, un gars très très riche, très intelligent, et il m'avait dit, Monsieur Gau, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il m'avait pris dans son bureau, il m'avait fait appeler, dans sa grande usine et tout. Il m'avait dit, je vais vous dire quelque chose. Il faut que vous le sachiez. Les gens, ils vous aiment par intérêt. Ils vous aiment pas en tant que Gérard Gau. Ils vous aiment parce que vous êtes le pasteur et que vous les nourrissez. Si vous les nourrissiez pas, ils vous aimeraient plus. Mais si vous saviez le mal que ça m'a fait. Et vous savez, j'ai pris ça pour argent comptant. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça m'a détruit vraiment. Le mal que ça m'a fait. Après, je regardais les chrétiens, je me dis, mais par intérêt. Mais je ne riais pas, hein. J'ai dit, même par intérêt. Sophie, elle m'aime par intérêt. Mais si vous saviez le mal qu'on peut faire avec des paroles. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas dire, mes prières, est-ce que c'est par intérêt ou c'est désintéressé? Je prie pour les enfants de Monsieur de Dieu, voilà, pour son fils, je prie parce que Dieu veut sauver son âme. Pourquoi je prie? C'est juste pour me dire, voilà, je prie, donc c'est clair, Dieu est avec moi. On va avoir des surprises au ciel, on va avoir des surprises. Quand les chrétiens sont mondains, est-ce que ce n'est pas temps de prier pour un réveil personnel? Est-ce que ça arrive des chrétiens mondains? Moi, il y a une chrétienne qui m'a appelé dernièrement, et elle m'a dit, dans l'église où je suis, c'est pas vieux, il y a 15 jours, 3 semaines, dans l'église où je suis, le dimanche matin, on se croirait à la plage, dans l'église, vu comment les femmes sont habillées. Alors quelqu'un, je sais, parce que ça va vite, quelqu'un peut dire, ça c'est du légalisme. Non, je crois que dans une église, on veille sur sa tenue. Oui ou non? On fait tout pour être sobre. Et quand on dit oui, tout ça, je sais comment ça marche. Certains peuvent dire que c'est du légalisme. Non, ce n'est pas du légalisme. quand on prend garde au respect à notre pied dans la maison de Dieu, quand on dit quand il n'y a plus de frontières, voilà, quand il n'y a plus de frontières entre le monde et l'Église, moi je crois qu'il y a besoin de réveil personnel. Je crois qu'il doit y avoir une frontière entre le monde et l'Église. Celui qui aime le monde, qu'est-ce que c'est la suite ? Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas dans son cœur. C'est écrit ou c'est pas écrit ? Vous pouvez le lire dans l'Épître de Jean. Lorsqu'une église imite les méthodes du monde, moi ça, on me l'a... Ici, les gens ils me connaissent, donc ils ne le font pas. Mais il y a plein d'églises en ce moment où on dit, voilà, il faut faire comme les gens du monde. Lorsque pour l'évangélisation, on imite les méthodes du monde pour plaire aux pécheurs, je peux vous dire qu'il y a besoin de se réveiller. Lorsqu'on dit, il faut faire comme le monde, on mondanise l'église. Moi, je crois qu'on n'a pas besoin de mondaniser l'église, on a besoin de spiritualiser l'église. Lorsque les chrétiens... Écoutez bien ça. Parce que je pense que c'est une vérité ici. La mondanité, je pense que beaucoup quand même vous avez appris. Mais lorsque les chrétiens ne comprennent plus l'importance du combat spirituel, il y a besoin d'un réveil. Est-ce qu'il y a un combat spirituel ? Est-ce qu'on combat contre la chair et le sang ? Ou est-ce qu'on combat contre les puissants des ténèbres ? Lorsqu'un chrétien n'a plus à cœur la prière, lorsqu'il dit « Oh, j'en ai marre, ça fait des années que je prie, ça ne sert à rien », ben, c'est peut-être qu'il y a des obstacles à la prière aussi. Et plutôt que de prier, il faudrait demander à Dieu, mais est-ce qu'il n'y a pas un obstacle à la prière ? Et peut-être que dans le moment de prière, Dieu va me montrer que je suis fâché avec M. Dupont, et que demain je vais l'appeler, ou tout à l'heure, un courrier, un mail, on a la possibilité, ma voiture, et je vais aller lui dire, je te demande pardon, parce que j'ai de l'amertume contre toi, et vous verrez si vous allez prier pour rien. C'est pas écrit dans la Bible, ça ? Combien de fois c'est écrit ? Dans le Notre Père, le seul commentaire que Jésus fait, si vous ne pardonnez pas vos offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Il y a un combat spirituel. Est-ce que nous en sommes conscients ? Si Dieu nous ouvrait les yeux pendant quelques secondes dans l'invisible, je pense que mardi, on serait tous à la réunion de prière. Si Dieu nous ouvrait les yeux dans l'invisible, je le répète, nous serions tous à la réunion de prière. Il y a un combat. Vous vous rappelez quand Amalek, le symbole de Satan dans la Bible, le symbole du combat, a voulu combattre Israël à Réphidim. Vous connaissez ce texte ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous rappelez ce que Dieu a dit ? Dieu a dit à Moïse, tu montes sur la montagne et tu lèves les mains. Et quand il était fatigué, parce qu'il a vu que quand il baissait les mains, l'ennemi était vainqueur, il a appelé Aaron et Hur et ils lui ont soutenu les bras jusqu'au coucher du soleil. Et c'est l'image de la prière fervente, de l'image de la prière qui se relâche pas, de la prière en commun. On est ensemble, seul on ne peut pas y arriver. C'est pour ça souvent qu'on s'est loupé, on s'est égaré, parce qu'on n'a pas compris qu'on avait besoin des uns des autres. Le don spirituel, écoutez, ça ne peut pas être plus clair. Et je peux vous dire que j'ai marqué des choses, le don spirituel, il est dans mes notes, croyez-moi. On a absolument besoin de s'unir les uns les autres. Et Dieu a dit à Moïse, il y aura une guerre de génération contre Amalek, de génération en génération. Le combat contre la puissance du diable, il existe. Regardez du temps d'Esther, vous connaissez Aman, vous rappelez l'histoire d'Esther, Aman, c'était un descendant d'Amalek. Quand Saül s'est vu éjecté, il n'a pas détruit Agag, vous rappelez, c'était un Amalécite. Et si on ne combat pas, ça va nous jouer des tours. Et Gretien, alors je vous le dis, je vous l'ai tellement dit, mais je le dis. Si un chrétien ne comprend pas le combat spirituel, c'est qu'il a besoin d'être réveillé. Il a besoin de combattre. Vous devez prier, nous devons prier. Et c'est pas une loi, ça doit être une bénédiction, ça doit être une grâce. Vous lirez Exode chapitre 17 et vous verrez combien le diable cherche à détruire. Quand je vois, je vais dire quelque chose, je ne sais pas si c'est bien, mais je le dis par comparaison. Quand je vois aux infos les musulmans, comment ils prient dans les mosquées. Vous avez vu à Paris les esclandres que ça a fait, qu'ils ne pouvaient pas contenir dans des mosquées et dans les rues ils priaient. Vous avez vu ? Bon, je le dis, c'est pour vous expliquer qu'il y a quand même un combat. Vous le réalisez ou non ? Alors ça, c'est une parenthèse qui pourrait être extrêmement bien expliquée. Mais mes frères et sœurs, il y a un combat. Il y a un vrai combat spirituel. C'est pour ça qu'il ne faut pas combattre contre la chair et le sang. La Bible dit, mais ne combattez pas contre le gars, la femme, vos enfants. Combattez contre la puissance des ténèbres. Et quand on prie, on combat contre la puissance des ténèbres. Quand l'ennemi gagne des victoires, vous savez des fois on parle, oui, les anges dans les cieux se réjouissent. Oui, c'est ça, il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Vous êtes d'accord? C'est vrai ça? Mais hier, je cherchais les textes dans Ésaïe, justement, où il est dit que dans certaines situations, l'ennemi, il rit. C'est écrit. C'est écrit. Que l'ennemi se réjouit même. Vous savez, des fois dans le ciel, je ne sais pas si les anges, ils se réjouissent. Mais je sais, je le sais, parce que c'est biblique. Je ne m'aventurerai pas à dire un truc qui n'est pas biblique. Mais je peux vous dire que dans l'enfer... Bon, pour le moment, parce qu'ils ne crieront pas toujours. Mais je peux vous dire qu'en enfer, il y en a qui rient. Et quand on voit ces voix, l'acharnement du monde à vouloir quelque chose, à persévérer. Hier, je lisais dans... Je me suis dit, tiens, tu pourras le conjuguer avec la prédication. Pour mon culte personnel, je lisais dans... C'est dans Luc. Regardez. Pour l'arrestation de Jésus. Regardez avec moi, dans Luc 23. Il faut quand même le lire, pour vous dire combien l'enfer, c'est persévérer pour avoir des choses. Vous vous rappelez quand Pilate, il essayait, tant bien que mal, de libérer Jésus. Vous connaissez, bon, il n'a pas beaucoup essayé, mais il a essayé de libérer Jésus parce qu'il a eu peur, parce que sa femme lui a dit qu'il n'y a rien entre toi et ce juste. Il a donc essayé. Mais regardez, on va lire au verset 18. Regardez bien. Ils s'écrièrent, Luc 23, 18, c'est l'image des ennemis qui persévèrent. Ils s'écrièrent, comment ils étaient, comment ils ont fait? Comment vous avez dans votre Bible? Tous ensemble, vous voyez comment les gens, même les ennemis, peuvent s'unir. Ils s'unissèrent, ils s'écrièrent tous ensemble, des gens qui avaient été certainement guéris, bénis, fait mourir, on leur avait monté la tête, comme on dit. Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas, un brigand, vous voyez. Il avait été dans une sédition pour un meurtre. Verset 20. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent, crucifie, crucifie-le. Pilate leur dit pour la troisième fois, quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié. Et vous avez vu les quatre mots qui suivent. Et leurs cris l'emportèrent. Ça vous montre combien l'ennemi, il est capable d'unir les hordes de l'enfer, les gens qui sont contre Dieu, contre l'Église. Est-ce que vous le réalisez ça? Peut-être qu'on ne le réalise pas, peut-être que c'est... Si nous on avait, franchement, je le dis mais en toute humilité, si nous les pasteurs on l'avait mieux expliqué, il est certain que les chrétiens peut-être se seraient réveillés davantage. Mais une chose est certaine, vous avez vu, leurs cris l'emportèrent. C'est l'enfer qui a gagné. Vous allez me dire tout ça, monsieur Gauss, c'était conduit par Dieu. D'accord, c'est vrai qu'il fallait que Jésus aille au calvaire. Mais c'est révélateur des ennemis de Dieu qui sont capables de s'unir pour avoir la victoire. Oui, vous lirez Ésaïe, si vous avez une concordance, vous regarderez toutes les fois où l'ennemi rit, l'ennemi jubile, l'ennemi se réjouit parce que l'œuvre de Dieu ne se fait pas. Oui, lorsque les conversions sont superficielles, il y a des gens, on le voit, il y a des fois, il y a 10 personnes qui prennent le baptême, un an après, sur les 10, vous n'en avez que 2 qui sont fidèles. Pourquoi? Parce que leur cœur n'a pas été touché, ils ont fait une expérience, parce que Dieu est bon, et Dieu est miséricordieux. Et vous comprenez bien que quand quelqu'un crie, il va agir, quand les 10 lépreux se sont approchés, combien ont été guéris? Un seul qui a été guéri? Tous ont été guéris. Pourtant, il y en a 9 qui n'en avaient rien à faire du salut de leur âme. Jésus les a tous guéris. Bon, ça n'a pas beaucoup changé. Mais quand les conversions sont superficielles, il serait temps qu'on dise, mais Seigneur, oui, la réponse, je la prends au sérieux. Je vais, moi, me réveiller. Je ne vais pas pleurer parce que les chrétiens ne se réveillent pas. Moi, Gérard Gault, chrétien de Saint-Agne avant d'être pasteur, eh bien moi je vais me réveiller parce que je veux entendre ta voix. Lorsque les réunions de prière sont froides, vous savez qu'il y a des églises, il n'y a plus de réunions de prière. Est-ce que vous savez qu'il y a des églises, des assemblées de Dieu, qu'on appelait, il faut être sérieux, mouvement de réveil, on a supprimé les réunions de prière. Je pense pouvoir dire, je le dis vraiment parce que je suis votre pasteur. Même si j'étais tout seul à rien de prière, je ne la supprimerais pas. Je le dis franchement. Mais quand les réunions de prière sont désertées, je pense qu'on pourrait prendre au sérieux la réponse du Seigneur. Réveille-toi. Je le pense. Lorsque les pécheurs sont à l'aise dans une église, parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, un monsieur me racontait l'autre jour qu'il y a dans son église, il y a deux homosexuels. Alors moi j'aime les homosexuels, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On aime tous les gens. Ça fait des années que deux homosexuels viennent, ils se viennent la main dans la main, à la sortie du culte, ils se bécotent, etc. Enfin bon. Monsieur, et on disait, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, je pense qu'il est temps que l'Esprit de Dieu agisse. Parce que quand les pécheurs, mais écoutez bien, quand les pécheurs sont à l'aise dans la maison du Seigneur, alors qu'il est quand même dit que le pécheur ne résiste pas dans l'assemblée des justes, alors les pécheurs, que Dieu fasse qu'il y en ait de plus en plus. Mais si au bout de 2-3 mois, ils n'ont pas été remués, c'est qu'il y a un besoin de réveil dans l'Église. Oui ou non? Parce qu'un pécheur qui vient 2, 3, 20 fois, au bout d'un moment, il doit choisir. Ou il choisit de rester dans son péché, ou il choisit de marcher avec Jésus-Christ. Et quand les pécheurs sont bien dans l'Église, laissez-moi vous dire qu'il y a besoin de réveil. Alors comment commence un réveil? Moi je pense que ça recommence. Parce que moi je veux être constructif, même si c'est sévère. Avec cette sensibilité personnelle. Parce qu'il y a des gens qui sont durs. Durs. Il y a des chrétiens qui sont d'une dureté envers les frères. Je crois qu'il faut réapprendre la tendresse. Vous ne croyez pas? Même si quelqu'un ne va pas bien, il faut lui dire je t'aime. Et je veux te soutenir. Il y a des gens, c'est pas facile toujours d'aimer les gens. C'est pas facile. Mais Dieu nous donne la grâce. Vous n'avez pas envie de voir des pécheurs se repentir dans l'église? Vous savez, il y a un frère qui va prendre le baptême là, dans 15 jours. Ce frère m'a appelé cette semaine. Il est venu 2 ou 3 fois. Il est peut-être là d'ailleurs. Il est venu et il me disait, dimanche, donc il y a 15 jours, en écoutant la prédication, j'ai été convaincu de péché. Et je veux mettre ma vie en règle. Et j'ai vu vraiment, dans l'heure d'entretien que j'ai eue avec lui, que cet homme était vraiment converti. C'est ça qu'il faut. Que quand les gens viennent, ils soient convertis. Qu'ils se convertissent vraiment. Et non pas qu'ils disent, ah c'est bien, ça change de l'église où je suis. C'est bien, c'est bien expliqué, c'est mieux. Non, je pense que ce n'est pas tout à fait ça le réveil. Je pense qu'un réveil, c'est un cœur qui redevient bouillant pour le Seigneur. Le Seigneur le dit, c'est sérieux. Oui ou non? C'est bien dit, c'est mal dit. C'est sûr qu'on a nos lacunes et nos manquements et nos faiblesses. En tant que pasteur de l'Église, c'est évident, ça je vous l'avais compris, vous l'avez vu. Mais ce qui est de Dieu, c'est de Dieu. Et si Dieu te dit ce matin, que ce soit moi ou que ce serait n'importe qui d'autre, réveille-toi, moi je pense qu'il faudrait dire, mais c'est sérieux. Parce que la colère vient. Ce texte nous indique aussi que la colère vient. Si vous ne croyez pas que la colère vient, laissez-moi vous dire que vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Parce que je vous dis que la colère de Dieu vient. Vous le voyez par les infos, que la colère de Dieu vient? Je n'ai pas le temps de vous donner quelques exemples. Je le ferai dans une autre, par rapport à certains faits d'actualité, peut-être pour vous aider à les comprendre, lorsque vous regardez les informations, à comprendre certaines choses par rapport à l'Apocalypse. Je le ferai dans une prochaine prédication. Lorsque les chrétiens sont de plus en plus déterminés, comme tout à l'heure, je l'espère, il va y en avoir qui vont dire, mais moi je vais vraiment prier pour les enfants de monsieur un tel, de madame un tel, je vais prier, je vais le faire. Lorsque les gens sont soucieux et qui disent, voilà, oui, il y aura une frontière entre le monde et entre l'Église, je ferai gaffe à ce qui est de Dieu et ce qui est du monde, il y a des choses du monde qui sont faisables, mais on le sait très bien, il n'y a pas besoin d'un discernement terrible pour savoir ce qui est mondain de ce qui est humain. Je pense que quand même, je ne vais pas y revenir là-dessus. Combien de gens sont rentrés, ils ne sont pas rentrés par la porte? La porte, qui c'est la porte dans la Bible? C'est Jésus, je suis la porte. Il y a des gens qui rentrent par la reconversion, la repentance, la nouvelle naissance, ils sont rentrés par le Seigneur Jésus-Christ. C'est sérieux, il y a des gens qui rentrent par l'ambiance. Ah c'est sympa, on est bien ici avec vous. C'est sympa, hein? C'est ça l'Église, un club de joyeux sympathiques, hein? Une association de super sympas. C'est ça, l'Église c'est quoi? Maintenant que je suis chrétien, j'ai de la moralité. C'est la moralité. Est-ce qu'il y en a de la moralité dans l'Église? Ben oui. Mais l'Église, ce n'est pas la moralité. La moralité est une conséquence. L'Église, c'est de la spiritualité. Quand je rentre dans l'Église, je ne suis pas devenu évangélique parce que j'étais protestant ou baptiste ou presbytérien. Non, quand je suis devenu chrétien, j'ai vraiment accepté Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur. Je l'ai vraiment accepté. Il est mon sauveur. Est-ce que vous pouvez dire ce matin, oui, Jésus, il est mon Seigneur. Il dirige ma vie, il me conduit. La porte, c'est Jésus. On n'entre pas, moi je suis évangélique et toi, ah t'es baptiste. Bon, j'ai vu ça dans des pastorales, des rencontres œcuméniques. Ah oui, votre doctrine, ah oui, on est différents. Moi, quand j'y vais plus. Moi, ça ne m'intéresse pas de dire à quelqu'un je suis évangélique. Voilà, moi, je suis chrétien, je pense que vous le croyez. Mais mes frères et sœurs, dans une église, les gens, ils sont attachés à Jésus. Ils aiment la prédication de la croix. Oui ou non? Ça vous gênerait que pendant 3 ou 4 dimanches, je prêche que sur la croix? Quelqu'un, parce que j'ai entendu ça. Oh, mais monsieur, on connaît la prédication de la croix. Nous, on a besoin d'autre chose. Moi, je crois qu'un chrétien, il ne se lassera jamais d'entendre une prédication sur la croix. Jamais. La croix, elle doit être prêchée avec ferveur. On doit comprendre tout ce qui s'est passé au calvaire dans un mois et 10 jours. On va dans toutes les églises du monde fêter la venue du petit Jésus. Il n'existe pas le petit Jésus. Même quand il est né à Bethléem dans une crèche, c'était le Seigneur de l'univers. Dans la crèche à Bethléem, il n'y a pas de petit Jésus. Celui qui était là, qui a été rejoint par les anges, il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtel. C'est sûr que c'était mieux dans l'étable. Vous allez me dire, c'est scandaleux. On a laissé Jésus naître dans une étable, dans une mangeoire, le Seigneur de l'univers. Moi, j'aurais donné ma chambre. Eh bien, faites-le. Faites-le aujourd'hui. Donnez-lui toute votre maison, votre chambre. Donnez-lui, donnez-la lui. Quand les gens acceptent Jésus, il y a vraiment quelque chose. Aujourd'hui, on entend des prédications. Moi, j'ai vu à des enterrements. Ça me rend malade. À des enterrements. Alors que dans un enterrement, il y a peut-être 50, 100, des fois 200 personnes qui n'ont jamais entendu l'évangile. J'ai vu à des enterrements des prédications où on n'a pas parlé de Jésus sur la croix. Moi, ça me rend fou, ça. Et dans une église, on peut parler de Dieu, on peut parler de sujets bibliques, on peut parler de la Bible, on peut parler intellectuellement, on peut parler de vérité religieuse, on peut parler de doctrine, sans parler de Jésus, de ce Seigneur Jésus. Quand les gens ils entrent dans une église, il faut qu'ils comprennent que Jésus-Christ, il est vivant et qu'on va passer devant lui. Est-ce que vous croyez que vous allez passer un jour devant le Seigneur? Vous le croyez vraiment que vous allez passer devant Jésus-Christ? Il faut comprendre que Jésus-Christ, ce n'est pas le petit Jésus de la crèche. Le Seigneur Jésus, c'est le maître de l'univers qui est vivant, qui est ressuscité, qui est assis sur son trône et devant qui on va tous passer. Tous, on va comparaître. Tous, on va comparaître. Moi, je le sais, Dieu m'avait repris ici, c'était au début, que Dieu m'a dit, mais tu rendras compte pour toutes tes prédications. Je sais que c'est vrai. C'est pour ça que vous comprenez que les avis des gens inconvertis qui me disent « il ne faut pas, M. Gault, parler de ci, vous risquez de choquer les pêcheurs », moi, ça me gêne pas tellement. Je pense qu'il faut que dans toutes les églises, on prêche Jésus-Christ crucifié, ressuscité, glorifié et qui revient te chercher. Et devant qui tu vas passer. Et devant qui tu ne pourras pas dire « tu ne m'as pas parlé ». Monsieur Gault, il nous répétait toujours les mêmes choses. Non, je ne répète pas les mêmes choses. Je vous dis ce matin que le Seigneur te dit, réveille-toi. Parce que la colère de Dieu, elle vient. Alors, il y a des conditions. Pendant quelques minutes, je voudrais vous parler de quelques conditions. On va en lire 2 ou 3 vite fait, parce que l'heure tourne. Mais même si l'heure tournait, ce n'est pas trop grave. Parce que quand même, c'est un sujet qui peut vous changer la vie, croyez-moi. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 9, Dieu explique comment la gloire de Dieu revient. Alors, je vous pose vraiment cette question. Est-ce que vous aimeriez voir la gloire de Dieu dans l'Église? Eh bien, vous n'êtes pas nombreux. Sérieusement, moi, je sais que vous avez, c'est pas obligé de répondre à haute voix, mais je vous pose la question, répondez à haute voix, mi-voix, c'est pas grave. Est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu dans l'Église? Eh bien, vous allez le savoir si c'est vrai. Lévitique 9, verset 6. Moïse dit... Là, on est dans les conditions, on n'est plus dans le constat, etc. Là, on est dans les conditions pour qu'il y ait un réveil personnel. Je dis bien personnel. Lévitique 9,6. Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Voilà. C'est simple, hein ? Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné. Obéir à ce que Dieu me demande. Quelqu'un qui n'obéit pas, qui fait ce qu'il veut, que c'est lui qui promène le Seigneur comme un petit toutou. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. C'est eux les bergers. Et Jésus, c'est la brebis. Enfin, c'est une image, parce que je ne pense pas que ça marche comme ça quand même. Mais quelqu'un qui fait ce qu'il veut, moi je vais au culte quand je veux. Je ne serai pas un légaliste. Alors je vous rassure, si vous parlez comme ça, vous ne deviendrez pas, vous inquiétez pas. Mais laissez-moi vous dire qu'un chrétien qui veut voir la gloire de Dieu, il dit, voilà, ce n'est pas à moi de vous dire, prie demi-heure, prie 20 minutes, je crois que c'est le Saint-Esprit qui va vous montrer, en fonction de tout votre emploi du temps, ce que vous avez à voir avec lui, oui ou non. Vous croyez pas que, vous croyez que Dieu peut vous montrer? Vous vous rappelez quand les apôtres dormaient dans le jardin, Jésus leur dit, mais vous n'avez pas pu veiller une heure, donc le Seigneur leur a indiqué à eux, le temps qu'ils devaient passer pour ce combat spirituel. Et je pense que si vous êtes vraiment devant Dieu, Dieu va vous montrer le temps que vous, chacun, vous devez passer devant lui. Quelqu'un qui n'obéit pas, c'est la preuve qu'il ne veut pas voir la gloire, de toute façon il ne verra rien. C'est quelqu'un qui ne veut pas se réveiller. Le réveil est toujours, toujours précédé d'obéissance. Finet, qui est l'homme de Dieu qui vraiment a vu un réveil, des réveils, dit le réveil, parce qu'on a souvent posé la question, c'est quoi ? C'est une église qui obéit à Dieu. Point. Le réveil est toujours précédé de cet amour pour la parole. J'aime lire la parole. Est-ce que vous aimez lire la Bible ? Ou est-ce que vous dites, bon, allez, je la lis, il me faut lire un chapitre. Quand on faisait les instructions sur le baptême, les pasteurs nous ont dit que ce serait bien de lire un chapitre par jour. Bon, allez, je lis mon chapitre. Allez, c'est bon, moi j'ai fait mon devoir. Demain, j'en lirai un autre. C'est pas ça le réveil. J'aime lire la parole. Est-ce que vous aimez lire les paroles du Seigneur ? Hier, je lisais, parce que bon, j'aime cette parole, quand Jésus dit à Pierre, mais ne penses-tu pas, j'aime cette parole, ne penses-tu pas que je pourrais invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant 12 légions d'anges ? Vous ne pouvez pas vous imaginer comme j'aime cette parole. Parce que moi, dans mon esprit, j'imagine ces 72 000 anges, là, dans l'invisible, attendant l'ordre de Jésus d'intervenir. Jésus aurait claqué des doigts. Je peux vous dire qu'il y aurait eu des étincelles à Jérusalem. Ces paroles, elles sortent de la bouche de Jésus. Ce n'est pas les assemblées de Dieu. Ce n'est pas le pasteur Go. Ça sort de la bouche de Dieu. Vous le croyez ? Est-ce que vraiment vous le croyez ? Quand vous ouvrez le Saint-Livre et que vous lisez une parole de surcroît de Jésus, ça sort de la bouche de Dieu. Ça devrait nous émouvoir. Dieu a quelque chose à me dire. Ce matin, je suis venu dans l'église, mais Dieu a quelque chose à me dire. C'est peut-être pas toute la prédication, mais je sais que Dieu, si mon cœur est ouvert, il va me dire quelque chose. Oui ou non ? Comme ce gars devant ses écrans de télé, qui a entendu 5 fois dans 5 prédications différentes, quelque chose qui l'a poussé à se jeter devant Dieu. Et il m'a dit, et Dieu m'a donné la victoire. Mais Dieu, il a quelque chose. Est-ce que ça vous touche pas de savoir que ce matin, il a quelque chose à vous dire? Ça vous aime pas? Moi, ça me bouleverse. Parce que je suis à votre place tous les jours aussi. Dans mon bureau, en train de dire, Seigneur, je veux une parole. Ce matin, hier, je lisais le nombre de fois, des centaines de fois dans Jérémie. Ainsi parle l'Éternel. Pourquoi c'est répété 500 fois dans le livre de Jérémie, 460 dans le livre d'Ésaïe ? Ainsi parle l'Éternel. Parce que Dieu a une parole. Le grand Dieu du ciel et de la terre a une parole pour toi. Et c'est vrai que si Dieu a daigné utiliser des serviteurs, des servantes, sa parole, ou tantôt d'une manière, ou tantôt d'une autre, mais Dieu a quelque chose à me dire. Ce matin, le Seigneur a quelque chose à me dire. Quelle grâce! Peut-être que c'est plus intéressant pour vous si le maire de Toulouse avait un courrier pour vous. Demain matin, vous attendriez le facteur de 6h du matin. Et oui, qu'est-ce qu'il fait ? Vous chercheriez la casquette qui approche. Ah, si le maire avait un courrier pour moi. Mais je pense qu'on a plus. Plus mieux. Vous croyez pas? Une parole de Dieu pour moi. Ben ouais. Si demain vous ouvrez votre cœur et que vous ouvrez le Saint-Livre, je crois que Dieu peut vous donner un mot, une parole. Oui ou non? Je lis. L'obéissance. Non, ce n'est pas un devoir. Ça me touche. Ce matin, j'ai réentendu une prophétie. Tu aimeras ton prochain, vous l'avez entendu 200 000 fois. Ça peut vous toucher. Ça vous a touché ou non? Oui. Ça me touche. Parce que c'est toi qui me le dis, Seigneur. J'ai besoin d'une parole. Si vous n'aimez plus la parole, je le sais que ça peut arriver. Moi, je me souviens de ces moments où j'étais pas bien, où je lisais juste pour préparer des prédications. Quand j'y repense, mais vous ne pouvez pas vous imaginer comment j'ai honte. Je sais ce que c'est. J'ai prêché, moi. Je lisais la Bible. Vous voyez, c'est pour ça que je ne suis pas là pour vous faire la leçon. Ça m'est arrivé pendant, je ne vais pas vous dire le temps, de lire la Bible pour préparer des sermons. Quand je vous le dis, vous voyez, j'en ai honte. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est de lire par devoir. Je sais ce que c'est de lire et de recevoir une parole de mon Sauveur dans mon cœur. Dans 2 Chroniques, au chapitre 3, il y a une autre condition. Vous la comprendrez facilement parce qu'il y a quelques mois ou quelques semaines, je vous ai prêché sur les chandeliers en or, que Dieu marche au milieu des chandeliers d'or. Donc là, vous comprendrez très facilement. Dans 2 Chroniques, au chapitre 3, à la fin du verset 4, Salomon, qui va construire le temple pour que la gloire de Dieu se manifeste, va donner des indications. 2 Chroniques, chapitre 3, verset 4. Vous le lisez. Si vous venez pour la première fois, c'est clair que vous n'allez pas comprendre. Vous allez comprendre par l'explication. Mais si vous étiez là il y a quelques semaines, vous comprenez. 2 Chroniques, chapitre 3, verset 4. Le portique sur le devant avait 20 coudées de longueur, répondant à la largeur de la maison et 120 de hauteur. Salomon le recouvrit intérieurement d'or pur. Il revêtit de bois le cyprès de la grande maison, la couvrit d'or pur. Verset 7, il couvrit d'or la maison, les poutres, les seuils, les parois, les battants des portes, il fit sculpter. Bon, à la fin du verset 8, il la couvrit d'or pur. Verset 9, et le poids de l'or pour les clous montait à 50 sicles. Verset 10, il fit dans la maison du lieu très saint deux chérubins sculptés et on les couvrit d'or. Amen. Verset 13 du chapitre 5. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord, il n'y a pas que dans l'enfer où les gens s'unissent, heureusement. Ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord, ça fait un peu pléonasme, mais vous allez comprendre, pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses cordes, car il est par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Amen. Tiens donc. Il y a deux choses. Je vous le dis en toute simplicité. Moi, j'ai entendu, dans pleine prédication, que pour que la gloire de l'Éternel se manifeste, il fallait chanter de tout son cœur, louer de tout son cœur. Il y a plein de textes. Mais vous avez remarqué avec moi que c'est précédé de l'or à l'intérieur. Vous avez vu avec moi, vous l'avez vu. C'est beau la louange, c'est beau l'adoration, c'est beau les cantiques. Et il en faut. Tout ça dans l'unité, comme on va le vivre, je l'espère, tout à l'heure, dans ce moment de jeûne et prière. Mais il y a, avant de parler de l'unité à l'extérieur, il y a l'or à l'intérieur. Vous savez, j'ai souvent prêché sur ce texte de l'Apocalypse, « Je te conseille, quand ça ne va pas, d'acheter de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. » L'or est toujours un symbole d'intégrité. C'est bien l'unité. C'est bien d'être unis. Est-ce que c'est bien d'être unis? Il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à s'unir. Hier, je parlais avec un frère qui est là, de réunions de prière, de réunions de maison. Tous les échos que presque j'ai eus des réunions de maison, alors moi je suis pour. Mais ça tournait en déconfiture. Parce que l'unité, s'unir tous ensemble. Si vous lisez le livre des Actes, vous verrez, ils s'unirent tous ensemble de même accord. Si l'écrivain sacré a rappelé ces mots, c'est pas pour faire des répétitions, c'est pour que nous comprenions bien que s'unir, c'est pas de la blague. S'unir pour prier, si tout à l'heure on prie, bon, il nous a dit de prier, bon, ben je vais rester, je vais prier pour les enfants de monsieur Olé, monsieur Delabre, vous avez des enfants inconvertis, bon, ben je vais prier pour vous, monsieur Olé, monsieur Gaud nous a conseillé de rester. L'unité, c'est pas ça. L'unité doit être en même temps et possible si elle est précédée de cette intégrité. C'est important dans une église d'être intègre. Est-ce que vous le comprenez? Parce qu'on peut le dire, l'unité, on va s'aimer, on va se prendre par les épaules, et on s'aime, et qu'on s'aime, et qu'on pleure, et on pleure ensemble. Oui, pour moi, c'est beaucoup plus, c'est très sentimental. Je ne suis pas contre de pleurer avec quelqu'un. Moi, ça m'est arrivé de pleurer dans les bras de Monsieur de Dieu par rapport à deux ou trois histoires. Ça m'a fait du bien, je n'ai pas honte. Moi, si un jour je pleure dans vos bras, j'espère que ça ne va pas vous choquer. Moi, ça m'est égal. Ça m'est égal de pleurer, ça m'est égal de rire. Moi, ce que je veux, c'est être vrai. Ça m'avait fait du bien. Merci, monsieur de Dieu, pour votre compréhension. J'avais un gros chagrin. Ça fait du bien, des fois, de pleurer avec quelqu'un. Oui ou non? Peut-être qu'on vous a dit, les frères. Si tu es un homme, tu ne pleures pas. Je vous ferai remarquer que Jésus a pleuré. Et que tous les hommes de Dieu ont pleuré. Tous, y compris même Joseph, le patriarche, le top du top. Et il a souvent pleuré, lui. C'est pas parce qu'on pleure que ça va pas. C'est pas parce qu'on rit que ça va. Mais l'unité, c'est un sujet sérieux, ça, parce qu'on parle du réveil. Comment être réveillé? Il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on prie ensemble. Venez le mardi à la réunion de prière et je vous encourage. Enfin, je peux vous faire un gros sermon sur l'importance de prier. Mais je pense que ça doit être précédé d'intégrité. Je marche au milieu des chandeliers d'or. Et si nous comprenons ces choses, lisez le début du livre des Actes, et vous allez voir ces semblants de, je l'ai utilisé tout à l'heure, vous savez ces mots qui se ressemblent là. On a l'impression qu'il y a des mots qui se répètent, c'est pléonasme. Merci. On a l'impression qu'il y a des pléonasmes, mais vous comprenez bien que le Saint-Esprit, il sait très bien parler. Mais ça nous indique l'importance de l'unité. Je veux m'unir avec vous tout à l'heure parce que je sais que Dieu veut sauver vos enfants. Vous voyez, je vous le dis parce que c'est quelque chose qui m'a marqué. Vous savez, quand c'est un enseignement du mauvais riche et de Lazare. On l'utilise comme parabole, mais ce n'est pas une parabole. Quand Jésus dit de ce gars-là, ce mauvais riche qui était vêtu de fin lin, vous savez, c'est l'image des œuvres. Enfin, il en faisait, mais pas beaucoup parce que c'était que des miettes. Il s'imaginait, lui, qu'il était en accord avec Dieu parce qu'il avait l'apparence de la piété. Mais quand il se retrouve en enfer, il va dire, mais envoie mon frère, envoie quelqu'un dans la maison de mon père car j'ai encore 4 ou 5 frères. Et qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Moi, tous les jours, je vous le dis, tous les jours, je prie pour, par exemple, le fils de M. Christian, les fils de M. Bertalon. Tous les jours. Parce que je sais qu'il y a un combat spirituel. Ça fait 22 ans qu'il est mort. Mais je suis sûr qu'on peut s'unir. À la maison, on peut être uni avec son frère. Il habite à Tournefeuille. Toi, tu habites à Blagnac. Mais on peut être uni aussi. L'unité, écoutez bien, frères et sœurs, parce qu'on se demande pourquoi il n'y a pas de réveil, je ne comprends pas. Mais oui, il y a peut-être besoin qu'à l'intérieur, il y ait de l'intégrité. Il a recouvert les ustensiles d'or. Et vous le savez, je l'ai dit, je l'ai prêché il y a un mois ou deux, il ne marche qu'au milieu des chandeliers d'or. Alors, mais c'est sûr qu'il y a les faiblesses, les manquements, mais je fais quand même la différence entre ces difficultés et puis le péché volontaire que l'on peut introduire dans l'Église. Pour terminer, même si j'étais un petit peu long, dans 2 Chroniques au chapitre 7, la gloire de Dieu va se manifester et on voit que Salomon va faire quelque chose. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1er. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1er. Je ne sais pas si vous êtes... Moi, ça m'a marqué, cette expression. Lorsque Salomon... Qu'est-ce qu'il fait? Comment vous avez dans votre Bible? Lorsque Salomon eut achevé de prier. Tiens donc, c'est drôle ça. Le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Nous devons aimer, prier et terminer jusqu'à la fin. Il y a des gens, ah moi je ne prie plus pour mon fils, il m'énerve. Il faut persévérer mes frères et sœurs. Il faut persévérer. Un an, deux ans, je me souviens à Albi, il y avait une sœur qui est décédée, elle était jeune, elle avait une cinquantaine d'années. Et ça faisait 30 ans qu'elle priait pour sa sœur. Et elle est morte, elle n'a pas vu sa sœur se convertir. Vous savez quand est-ce qu'elle s'est convertie? Le jour de l'enterrement de la sœur. Elle a été bouleversée par le témoignage qui avait été rendu d'elle, et puis par la prédication de la croix. Elle a prié 30 ans, et elle s'est convertie le jour où sa sœur est morte. Enfin, où sa sœur est enterrée. Lorsque Salomon eut achevé de prier, il y a des gens, ah non, moi je ne prie plus, la prière, ah oui. Mes frères et sœurs, si nous voulons voir la gloire de Dieu, il faut terminer. Jérôme le disait tout à l'heure, c'est bien de bien commencer, mais il faut terminer. Entre dans ta chambre et ferme la porte. C'est ça, je veux continuer à prier. Je continue à prier pour ce pays. Je continuerai à prier pour ce gouvernement, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait. Ça ne fait rien. Je prierai pour le gouvernement. Parce qu'est-ce que vous voulez que des églises s'ouvrent quand même, si Jésus tarde? Est-ce que ça vaudrait la peine que le gouvernement soit toujours favorable à ouvrir des églises? Oui, oui, non, ça vous est égal. Ça vous est égal que des églises s'ouvrent, ou c'est important pour vous? Ce ne serait pas important pour vous si vous avez votre fille dans telle ville et qu'il y ait une église vivante? Vous croyez pas que, vous ne seriez pas content qu'il y ait une... Je suis peut-être même soupçonneux de croire que si votre fille était dans telle ville où il n'y a pas d'église, le Seigneur permet qu'il y ait une église dans cette ville. Bizarre comme des fois, tout d'un coup, on a envie qu'une église soit dans telle ville. Est-ce que nous voulons ces moments d'intimité? Entre dans ta chambre. Voyez la solution. Réveille-toi. Entre dans ta chambre. Je termine avec cette question, même si ne regardez pas la montre, s'il vous plaît. Je vous pose cette question solennellement. Je vous ai dit tout à l'heure que quand Dieu était dans sa maison, c'était une grâce d'entendre Dieu nous parler. Alors, je vous la pose devant lui. Est-ce que vous voulez, est-ce que je veux, des moments d'intimité avec le Seigneur Jésus? Parce que ça aussi, c'est la solution. Vous l'avez lu avec moi. Que tes morts revivent. Est-ce que j'ai des moments d'intimité avec le Seigneur? Est-ce que je vais terminer, moi aussi, ma prière? Est-ce que je vais persévérer? Moi, quand j'entends certains chrétiens, ça me fait peur. Pas pour l'Église, ça me fait peur pour eux. Parce que petit à petit, je me rends compte qu'ils sont perdus. Ils sont dans la critique, dans le jugement, dans la condamnation, alors qu'on devrait s'unir tous ensemble. Oui ou non? On devrait vraiment s'unir tous ensemble. Ce n'est pas à l'enfer à s'unir pour détruire l'œuvre de Dieu. C'est à l'Église, c'est aux chrétiens à s'unir ensemble. Je veux prier pour mes enfants, pour tous mes enfants et tous mes petits-enfants. Je veux qu'ils soient tous sauvés. Je veux qu'ils soient tous sauvés. Vous savez, vous avez lu, je ne reviens pas sur le texte qu'on a lu, mais cache-toi jusqu'à ce que la colère soit passée. Et là, je vous le dis parce que mon cœur est brisé. Il est brisé, mon cœur. Quand je sais que des chrétiens ne sont pas pris, vous comprenez bien que ça me fait pas rire. Parce que je sais qu'il y en a qui vont rester sur le carreau quand Jésus va revenir. Et quand Dieu dit, c'est Dieu qui parle, c'est pas moi. Cache-toi, parce que la colère, elle vient. Vous le croyez, ça? Je le reviens à ce que j'ai dit au début. Cache-toi, l'heure du jugement, elle vient. Cache-toi dans sa présence, cache-toi dans cette intimité. Aime te retrouver tout seul avec Dieu. Vous n'aimez pas vous retrouver tout seul avec Dieu? On est heureux tous ensemble. Moi, je suis heureux d'être avec vous ce matin. Est-ce que vous aimez vous retrouver tout seul? Si vous n'aimez pas, je vous plains. L'heure du jugement, elle vient. Elle vient sur tous ceux qui oublient Dieu, sur tous ceux qui se moquent de Dieu. C'est pour ça que dans une église, il ne faut pas se moquer du Seigneur. Jamais. Qui veut se réveiller, en tous les cas, n'attristons pas le Saint-Esprit, ne l'attristons pas. Ce matin, il se peut que vous n'ayez peut-être pas tout compris. Je ne sais pas, je ne suis pas là, moi, qui je suis. Je prie, je suis comme vous. Je prie pour avoir une pensée, je prie pour avoir un message, vraiment pour avoir la pensée de Dieu, pas une prédication, ça je sais le faire. Ça c'est sûr, je sais le faire. Mais je prie pour que le Saint-Esprit nous parle. Je prie pour que vous, peut-être, vous réécoutiez cette prédication 50 fois. Eh ouais. Mais mes frères et sœurs, est-ce que nous voulons voir la gloire de Dieu? Est-ce que Dieu a changé du temps de Salomon? Moi, je crois que Dieu n'a pas changé. Il aime notre nation, même si elle s'attire le jugement. Dieu aime la France. Il aime les Français, le Seigneur. Même si on est des rationalistes et si on a foutu la pagaille partout, le Seigneur, il aime notre nation. Et il veut bénir notre nation. Alors réveillez-vous. Réveille-toi. Gérard, réveille-toi. On se recueille quelques instants. Que répondrez-vous au Seigneur? Que lui répondrez-vous? Quelle parole allez-vous lui dire dans le plus profond de votre cœur? Là, maintenant, il va l'entendre. Moi, je ne vais rien entendre et je n'ai pas à entendre. Mais Dieu, il entend ce que vous êtes en train de lui dire. Seigneur, oui, je veux me réveiller. Oui, je veux me cacher dans ton intimité. Tu as une parole pour moi. Oui. Vous pourrez peut-être le vérifier ce soir, demain matin, et vous dire, mais c'est vrai. Ça m'a touché. Le Seigneur a une parole pour moi. Il a une lettre pour moi. Mais vous qui êtes nouveau, peut-être que vous découvrez l'Évangile pour la première fois. Je ne sais pas ce que vous avez compris. Je sais que le Saint-Esprit est tout puissant. Mais sachez que Dieu veut vous bénir aussi. Et que vous pouvez prendre la décision de lui obéir, de vous repentir. Il est mort à la croix. Celui qui règne, couronné de gloire et d'honneur, là, en ce moment, vous ne le voyez pas, mais nous pouvons anticiper. La Bible dit, nous le voyons, couronné de gloire et d'honneur. On le sait. Il règne. Le grand Jésus, le Seigneur de l'univers, et il vient bientôt. S'il a dit ça il y a 2000 ans, je pense qu'on n'a pas de mal à comprendre que c'est très bientôt. Qu'est-ce que vous allez répondre dans votre cœur? Répondez-lui de grâce. Ne lui faites pas l'affront de ne rien lui dire. Même si c'est « Seigneur, aide-moi. Aide-moi à retrouver l'amour de ta parole. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Que ce soit vrai. J'en ai marre de juger les autres, de juger l'Église, de critiquer, Seigneur. Je serai jugé en plus. En plus, on va être jugé avec le récipient qu'on utilise. » Seigneur, aide-moi à aimer. Aide-moi à aimer. Aide-moi peut-être à m'aimer moi-même. Aide-moi à aimer mes frères, mes sœurs. Aide-moi à aimer mon patron, mes ennemis. Aide-moi, Seigneur, à être le croyant que tu veux que je sois. Et Dieu va vous aider. Ils ont prié sincèrement. On en a marre de ces cadavres. Eh bien, réveille-toi. Notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, quelle grâce sur la terre, quelle grâce, oui, sur la terre, de pouvoir élever le nom du Seigneur, de pouvoir parler à ce grand Dieu, que ce soit de voix audible ou dans le cœur, mon Dieu, quelle grâce de pouvoir te parler. Seigneur, oui, tu parles. Tu veux parler dans ce pays. Parle au travers de ta parole. Tu vois cet enregistrement, toutes ces radios qui le diffuseront, tous ces auditeurs qui l'entendront. Parle, Seigneur. Parle ce matin à Sainte-Agne, parle. Tu vois celui qui sait qu'il doit se réveiller. Eh bien, aide-le, aide-moi, Seigneur. Aide-nous. C'est ce que nous voulons, Seigneur, que le feu de Dieu se manifeste dans l'Église. Que ta gloire vienne, Seigneur. Bénis ce moment tout à l'heure, que nos cœurs soient prêts pour ce moment de prière. Et je sais que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.